VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Tchad, la coalition des partis de l'opposition, le FONAC, a tenu une conférence de presse pour réitérer son rejet total du cinquième mandat du président Idriss Déby Itno et pour appeler à la poursuite de la lutte pour balayer son régime. Salwa Jafari a joué au téléphone Ahmad Mahamat Alabo, coordinateur adjoint du FONAC.
Nous avons voulu tout simplement faire le bilan de toutes nos activités auprès de la presse et nous avons donc tout simplement informé la presse pour qu'elle, à son tour, informe l'opinion que le 8 août, il y a eu investiture de Déby et que notre combat ne s'arrêtait pas au 8, que naturellement nous contestons l'élection de Déby, nous considérons son mandat illégal et illégitime. Et donc, nous allons nous organiser pour que la lutte contre ce régime que nous considérons illégal et illégitime puisse continuer avec l'appui naturellement de la population tchadienne. Et donc, si nous avons le soutien populaire de la population, aucun régime ne pourra résister, n'est-ce pas, à la volonté d'un peuple qui s'élève et se bat pour ses droits. Le proverbe arabe qui dit « Iza shabu yoman arad al-haya fa la budda an yastajib al-khadar ». Donc, quand le peuple s'élève, c'est une force qu'il faut tenir compte avec et il est capable de beaucoup.
Ahmad Mahamat Alabo, coordinateur adjoint du FONAC au Tchad. Au Gabon, plus que 8 jours avant la présidentielle du 27 août, le réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, ROLBG, a tenu une conférence de presse cet après-midi à son siège à Libreville. Georges Mpaga, le président du conseil d'administration, en a expliqué les raisons à Anastasie Toudiech.
Nous avons choisi d'organiser une conférence de presse ce matin parce que l'actualité gabonaise, vous savez, est marquée par l'accélération du calendrier électoral et surtout des bouleversements politiques liés notamment par l'adhésion à la candidature de Jean Ping de plusieurs prétendants à l'élection présidentielle au Gabon. Suite à une médiation de la société civile dont le rôle BG faisait partie du panel. Bon, nous sommes donc cet après-midi pour justifier pourquoi la société civile qui est censée être neutre a pris position. La première chose, c'est que dès son arrivée au pouvoir en 2009, Ali Bongo a instauré une dictature dont les acquis sont le refus par Ali Bongo d'un dialogue social tant exigé par toutes les populations gabonaises pour des raisons égoïstes et personnelles de conservation du pouvoir après son putsch électoral de 2009. Bon, il y a aussi les raisons économiques. Le Gabon est dans une totale banqueroute avec aujourd'hui un état de cessation de paiement. Le pays est à genoux suite à une gestion anachronique des finances publiques, à des détournements massifs de fonds publics. Au niveau social, je viens là à la troisième raison qui justifie notre choix, c'est que Ali Bongo a demandé, a promis au peuple gabonais de construire 5 000 logements par an pour régler le problème des bidonvilles au Gabon. Il n'a rien fait, il n'a pas construit. Le système de santé est dans un état de déliquescence. Les femmes accouchent à même le sol. Aucune école. Et je viens d'apprendre qu'un autre candidat, l'ancien premier ministre Raymond Donc-Sima, vient de rallier Jean Ping.
Comment réagirait la société civile si, malgré toute cette mobilisation derrière la candidature de Jean Ping, M. Bongo venait à être réélu?
M. Bongo ne peut pas être réélu, madame. Dans tout le pays, c'était un rejet total. Le seul risque, c'est que M. Ali Bongo puisse faire un coup d'État électoral. Si M. Ali Bongo entreprend de faire un coup d'État électoral supplémentaire, nous demanderons aux forces internationales établies au Gabon d'intervenir pour protéger la démocratie.
Georges Mpaga, président du conseil d'administration du ROLBG, le réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon. L'Afrique australe a besoin d'une aide humanitaire urgente pour éviter une nouvelle année de pénurie alimentaire en raison des inondations qui menacent désormais la région dans la foulée d'une grave sécheresse. Tel est l'avertissement lancé par plusieurs agences de l'ONU. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Selon le Programme alimentaire mondial, 18 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide dans le sud de l'Afrique. Cette année, un phénomène météorologique, la Niña, pourrait s'abattre sur la région, apportant de fortes pluies et donc de potentielles inondations. La Niña apporte de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est qu'on va recevoir des précipitations supérieures à la moyenne qui sont normalement synonymes de bonnes récoltes pour nos fermiers, a expliqué à l'AFP Lewis Hove, coordinateur des questions agricoles pour la FAO, lors d'une réunion à Johannesburg. Producteurs de matières premières, une grande partie des pays d'Afrique australe, comme la Zambie, sont en outre touchés par la chute des cours au niveau mondial. La communauté internationale doit s'impliquer et apporter son aide, a exhorté Chris Nicoy, patron du PAM pour l'Afrique australe, qui souffre depuis 2 ans des effets dévastateurs d'El Niño, ce courant climatique qui bouleverse le rythme des pluies et qui a apporté une grave sécheresse sur la région.
Au Niger, la justice militaire a rejeté ce matin les demandes de mise en liberté provisoire de la dizaine de civils impliqués dans la tentative de coup d'État de décembre 2015. Rappelons que le président Issoufou Mahamadou avait annoncé en fin d'année dernière que ses services de renseignement avaient déjoué une tentative de putsch contre son gouvernement. Plusieurs officiers de l'armée, dont un général avait alors été arrêté, ainsi que des civils, pour la plupart des militants de l'opposition, qui restent en prison depuis. Plus de détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Avec cette décision, la chambre de contrôle du tribunal militaire confirme ainsi une ordonnance de non-mise en liberté provisoire prononcée déjà par le juge qui est en charge de l'instruction de ce dossier. Le conseil d'avocat dit en prendre acte, Maître Diaouga Adamou.
Nous avons, nous avocats, estimé qu'il est important au stade actuel de la procédure, après 8 mois de détention, de déposer des demandes de mise en liberté provisoire. Surtout que nos clients ne se reprochent rien. Mais c'est une décision de justice qui vient de tomber aujourd'hui. Nous sommes des avocats. Nous la respectons. Nous nous inclinons devant la décision de justice. Nous allons utiliser les voies que la loi nous offre pour toujours les défendre.
Les avocats de la dizaine de civils présumés impliqués dans cette affaire indiquent qu'ils aviseront quant à la suite à donner à ce rejet. Leurs clients qui sont poursuivis pour complicité, tout comme les officiers accusés d'être les auteurs de ce coup d'État avorté, vont donc continuer à garder prison dans différentes maisons d'arrêt du Niger. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Campagne présidentielle américaine 2016 maintenant, Paul Manafort, l'ex-homme fort de la campagne du candidat républicain Donald Trump, montré du doigt dans une affaire de corruption en Ukraine, a démissionné aujourd'hui. Un départ qui intervient 48 heures après la réorganisation de son équipe de campagne par le milliardaire, distancé dans les sondages par la candidate démocrate Hillary Clinton. Paul Manafort avait gardé son titre de directeur de campagne après la réorganisation, mais la nomination d'une nouvelle responsable de campagne, Kellyanne Conway, et d'un directeur général de campagne, Steve Bannon, l'avait marginalisé. Dans le cadre de tous ces changements, le candidat républicain Donald Trump a fait une confession inhabituelle hier lors de son premier meeting électoral après le remaniement de son équipe de campagne. Il regrette d'avoir offensé des gens avec ses paroles, Jean-Roger Bion.
Sometimes, in the heat of debate and speaking on a multitude of issues, you don't choose the right words.
Parfois, dans le feu de l'action, dans un débat ou en s'exprimant sur de multiples sujets, on ne choisit pas les bons mots ou on dit la mauvaise chose, a déclaré le candidat républicain lors d'une réunion publique à Charlotte, en Caroline du Nord. Cela m'est arrivé, a-t-il poursuivi, faisant alors rire et applaudir ses partisans. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je regrette, a ensuite admis Donald Trump. Je le regrette en particulier lorsque j'ai pu blesser des gens personnellement, a-t-il dit avant d'assurer toutefois à ses partisans, je vous dirai toujours la vérité. Sur le fond, Donald Trump a renouvelé avec force son appel aux minorités américaines, en particulier les Noirs. Je ne me reposerai pas tant que les enfants de ce pays, quelle que soit leur couleur, fassent pleinement partie du rêve américain, a-t-il déclaré. Si les électeurs noirs donnaient sa chance à Donald Trump en votant pour moi, le résultat sera incroyable pour eux, a-t-il promis. Qu'avez-vous à perdre en essayant quelque chose de nouveau, tout en gardant le fond de son message, mur avec le Mexique, verrou migratoire, protectionnisme commercial, le républicain s'est présenté comme un agent du changement par rapport à sa rivale démocrate, incarnation de l'establishment et protectrice des riches et des puissants. Hillary Clinton et le Parti démocrate prennent le vote noir pour acquis, a-t-il dit. Il est temps de rompre avec les échecs du passé.
Et vous terminez, le secrétaire d'État John Kerry est attendu la semaine prochaine au Kenya, au Nigeria et en Arabie Saoudite. Une nouvelle tournée qui sera dominée par la lutte contre le terrorisme. Lundi prochain à Nairobi, M. Kerry aura un entretien avec le président kenyan Uhuru Kenyatta sur les questions de sécurité régionale et la coopération antiterroriste. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.